est-ce qu'il y a une église qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est là, il est au milieu de nous. Il mérite notre louange, il mérite la gloire. Et on va chanter ce matin sa grâce incomparable. On va élever son nom ensemble. Vous êtes d'accord? On y va. Et on tape dans les mains. chanter ensemble. Qui suis-je?
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa façon d'amour pour moi, son amour pour...
Et voici ce qu'on chante.
Il m'a libéré, m'a détruite. Je suis enfant de Dieu, je suis ami.
On y va, il m'a racheté.
Il m'a racheté à la croix, à Saint-Son.
J'étais esclave,
j'étais esclave du péché. Il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé.
On dit
il m'a libéré, m'a détruite. Je suis enfant de Dieu, je suis ami.
Je suis. Two.
c'est la meilleure place.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Je désire habiter près de toi, élevons nos voix ce matin, restons dans sa présence. Parce que Jésus, tu es là et tout a tout accompli, Jésus. Et nous sommes là, ton Église, pour te louer, pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Qui est digne si ce n'est toi, Jésus? Qui nous a sortis de là où nous y étions, Seigneur? Alors nous sommes là pour te donner la reconnaissance de notre âme, pour t'élever encore plus haut, Jésus, ce matin. Pour t'élever, Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sur la terre comme au ciel, sinon le nom de Jésus.
Celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies, tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie, Jésus.
Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu es seul d'écrire cette histoire avec nous, Jésus. Et on y va ensemble.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
Encore une fois.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villes.
envahit nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.
Oui, Seigneur, viens, souffle dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos voisins, dans nos villages, jusqu'aux extrémités de la terre. Viens encore. Amen. Est-ce que vous avez soif de cette présence de Dieu? Vous êtes sûr? Amen. Saint temps, merci à l'équipe de louanges, merci pour ces temps qui sont bons. Oui, on peut applaudir Dieu, on peut applaudir, on peut remercier. C'est tellement bon de passer des instants dans la présence de Dieu ensemble. Et c'est un privilège, je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est un privilège énorme de pouvoir passer ces instants. Amen. On va continuer la célébration et il y a quelques petites annonces. Chaque année, on fait une... Enfin, c'est pas nous, c'est Hop et Smile qui font une collecte pour les réfugiés de Calais. Alors, si vous voulez bien donner un petit coup de main, il y a des prospectus au point accueil où il y a tout décrit dessus, de leurs besoins. Et vous pouvez apporter, la collecte se fait jusqu'au dimanche 28 juillet. D'accord ? Jusqu'au dimanche 28 juillet. On continue, et vous savez, l'église, c'est pas que le dimanche matin. Hein. Vous êtes... Ah, amen. D'ailleurs, juste en aparté, il y a plein de groupes. Et ce samedi matin, samedi 20, il y a les femmes. Vous êtes là, les femmes ? Ouais. Samedi matin, elles se retrouvent. Il y a même les jeunes qui vont se retrouver. Les jeunes, vous êtes là ?
Ouais.
Mathieu est là. Ils vont se retrouver. L'église, c'est toute la semaine. C'est dans différents groupes, dans les groupes de maison aussi. Et on vous invite vraiment à venir, à vous intéresser. Pareil, allez au point accueil, informez-vous sur tout ce qui se passe dans la semaine. Et même si vous ne savez pas quoi faire cette semaine, ben venez voir l'équipe pastorale, prendre un petit café. Vous serez d'accord, hein, Mathieu ? Voilà, on est là tous les deux. Les bureaux ne sont pas fermés juillet-août, on est présents. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, besoin d'un conseil ou boire un petit café, on est là, on vous recevra sympathiquement. Maintenant, je vais présenter vite fait. Oh, il est connu maintenant, il fait partie de la famille. Ce matin, on a le privilège d'avoir Timothée Minard et sa famille. On peut les applaudir, les accueillir chaleureusement, comme on sait le faire. Et c'est lui qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Il était parti en 2018, il est parti à Madagascar en mission avec sa famille. Et puis là, il est revenu, mais je vais le laisser tranquillement présenter. Et nous apporter la parole de Dieu. Amen. Tiens.
Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est une joie d'être parmi vous. Et c'est vrai que je dis de retour parmi vous, mais cette fois-ci, on est alors, plus que de retour en France, on a notre mission à Madagascar s'est terminée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, mais notre mission à Madagascar vient de se terminer il y a à peine quelques jours. Alors moi, j'ai dû rentrer il y a déjà un certain temps. Depuis quelques mois, je suis en France. J'ai dû rentrer un peu subitement pour des questions de santé. Rien de trop grave, mais voilà, il y avait quelque chose. Je devais être en France. Et puis Delphine et les enfants qui sont là, je ne sais pas s'ils ne veulent pas se lever, qu'on les voit quand même. Donc Eve et Tan, nos deux enfants, sont rentrés il y a à peine une dizaine de jours. Hein, ils viennent d'arriver en France la semaine dernière. Et pour nous, voilà, c'est la fin de la mission. Dans deux semaines, on va s'installer à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, à côté de Paris. Je vais reprendre un poste pastoral, tout en continuant aussi de donner quelques cours à Madagascar, mais en visio, hein, comme vous pouvez l'imaginer. On est reconnaissant parce que Delphine a aussi pu trouver du travail comme assistante sociale en milieu scolaire à partir de la rentrée à Boulogne-Billancourt. C'est donc une nouvelle étape pour nous, et après 6 ans passés à Madagascar, on tenait à venir vous voir et vous remercier pour votre soutien, parce que en tant qu'Église, à l'EPI, vous nous avez soutenus ces 6 dernières années. Voilà, on était, pour ceux qui savent, on a passé 2 ans à Strasbourg où je terminais ma thèse de doctorat. Où on était membre de l'EPI avant de partir à Mada. Et puis, l'Église a eu à cœur de nous soutenir dans cette mission durant ces 6 années. Et par vos encouragements, par vos prières, par votre soutien, vous avez contribué, vous avez pris part aussi à notre mission, à la mission de l'Église à Madagascar. Parce que vous savez, alors oui, il y a en grande partie l'enseignement théologique qui était le cœur de notre mission. Grâce à votre soutien, vous avez pu contribuer à la formation de, je sais pas, une bonne cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants à temps plein à l'Institut supérieur de théologie évangélique, l'ISTE, qui est basé à Tananarive, la capitale de Madagascar. J'ai enseigné là-bas à temps plein. Delphine a donné aussi quelques cours. Et à travers cela, vous avez permis que ces étudiants, soit qui sont aujourd'hui des pasteurs, certains sont enseignants en école biblique, d'autres sont des formateurs dans leur union d'église. Il y a une des anciennes étudiantes qui travaille à la traduction de la Bible à Madagascar. Il y en a qui ont des responsabilités majeures dans leur union d'église à Madagascar, dans des œuvres aussi interdénominationnelles. Et ce sont donc des formateurs que vous avez contribué à former. Et par là même, des milliers de chrétiens à Madagascar qui sont et seront au bénéfice d'un enseignement que j'espère un peu plus enraciné dans la vérité de l'Écriture, dans la parole de Dieu. Ça, c'était le cœur de notre mission, mais à travers aussi la mission, c'est aussi des liens qui se tissent. C'est des liens qui se tissent parce que l'Église du Christ n'est pas juste l'Église locale dont nous sommes basés à Strasbourg ou ailleurs, mais une Église qui est à travers toutes les nations, à travers le monde, et à travers la mission, lorsque l'on envoie certains en mission, lorsque d'autres viennent, c'est des liens qui se créent concrètement entre des chrétiens à travers le monde, et ainsi on rend quelque part plus concret aussi la communion fraternelle au-delà des frontières. Donc merci, un grand merci pour votre soutien, qui nous a beaucoup encouragés durant ces années. Merci à vous et sachez qu'à travers ça, vous participez aussi à votre échelle, à notre échelle, à la construction de l'Église du Christ, de l'Église universelle. Merci de prier aussi pour nous parce que revenir de mission, vous savez, c'est souvent plus difficile que de partir en mission. On ne s'en rend pas toujours compte, mais nos enfants, quand ils sont partis là-bas, ils avaient 9 et 10 ans. Maintenant, ils ont 15 et 16 ans. C'est une grande partie de leur vie à Madagascar, de leur identité, de leurs amis qu'ils ont laissés là-bas. On a laissé beaucoup de personnes qui nous sont chères là-bas, une partie de notre vie. Et maintenant, c'est une autre étape pour nous, mais voilà, c'est aussi une étape de transition. Et on a besoin de vos prières. Même si on sait que le Seigneur conduit les choses, on lui fait confiance, mais merci encore pour votre soutien dans la prière durant ces temps qui viennent. C'est les temps de défi, priez pour vos missionnaires qui reviennent aussi, qui sont parmi vous, et encouragez-les, entourez-les aussi au-delà de nous. Je sais que vous soutenez un certain nombre de missionnaires, et c'est vraiment une période particulière, le retour de mission. Et je pense qu'on est reconnaissant là aussi pour le soutien dans ces temps-là. Voilà un peu pour les nouvelles, une autre étape pour nous. Et je ne sais pas si c'est en rentrant de mission que c'est pas pour ça qu'on a choisi le titre de ce message qui est « Vive la France !» Point d'interrogation. Vive la France ! C'est vrai que pour nous, on revient dans le pays où on a grandi, notre pays où on a quand même passé le plus grand temps de notre vie, en tout cas pour mon épouse et moi-même. Mais c'est aussi parce que c'est le 14 juillet aujourd'hui. C'est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est un jour qui est férié dans notre pays. Pourquoi ? Pour pouvoir célébrer la nation française. Et la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'en tant que chrétien, on est appelé à célébrer notre nation ? Est-ce que j'étais un peu déçu, on n'a pas chanté la Marseillaise pendant le culte, mais Est-ce qu'on devrait agiter des drapeaux français? Non, non plus, on n'a pas vu beaucoup de drapeaux. Bon, on sait que c'est un contexte un peu particulier en ce moment au niveau politique, donc c'est toujours un peu difficile. Mais doit-on être fier de son pays? Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Alors j'ai bien cherché, j'ai fouillé, j'ai même demandé à ChatGPT, mais apparemment, la France n'est pas mentionnée dans la Bible. Et oui, parce que, comme a dit ChatGPT, à l'époque où la Bible a été rédigée, la nation française n'existait pas encore. En revanche, la Bible parle de nation, parle de peuple, parle de langue qui compose et qui composait le monde de l'époque. Et durant ce temps, ce matin, je vous propose de faire un petit parcours à travers la Bible pour découvrir un peu ensemble la place des nations dans le plan de Dieu. J'aime bien, on pourrait prendre certains textes ou quelques versets pour cela, mais j'aime bien aussi prendre un peu de recul et de la hauteur. Je ne sais pas si vous, certains commencent à me connaître quand on aborde des sujets comme cela, et passer notamment le test CCR, création, chute, rédemption, et donc voir comment Dieu a créé les choses, quelle était la place des nations dans le plan de Dieu à la création, comment la chute, le péché est venu corrompre les choses, et comment Dieu, en Jésus-Christ, dans son plan de salut, de rédemption, vient restaurer dans ce domaine-là aussi la question des nations. Alors on commence par le commencement. Comment Dieu a-t-il créé ce monde? Premier livre, premier chapitre de la Bible. Alors il faut dire qu'il existe une version, on pourrait dire apocryphe, du récit de la création qu'on raconte parfois à l'étranger, un peu des traditions que j'ai entendues. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition. Cette tradition dit qu'au commencement, Dieu créa la France et que contemplant la création, il se dit « Waouh ! Là, je me suis surpassé quand même. Tous ces paysages si variés, ces montagnes, ces collines, ces côtes si diverses, ces vignobles. Waouh ! Je me suis vraiment surpassé en créant la France. » Mais du coup, ce n'est pas très juste quand même pour les autres nations. Alors l'histoire dit que pour compenser, Dieu créa les Français. Bon, il paraît qu'il existe aussi une version alternative où on remplace la France par l'Alsace et les Français par les Alsaciens, mais bon, ça, je ne suis pas bien sûr de mes sources. Alors bien entendu, ce n'est pas ce que la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible ne nous dit pas qu'au commencement, Dieu a créé la France ou les Français, les Alsaces ou les Alsaciens, ni une quelconque nation. Lorsque vous lisez les premières pages de la Bible, en Genèse 1 et 2, on découvre qu'au commencement, Dieu crée l'être humain, homme et femme, à son image. Et dans le plan initial de Dieu, il n'y a qu'une seule humanité, composée d'hommes et de femmes qui reflètent l'image de Dieu, du Créateur, dans ce monde. Une seule humanité qui vit en harmonie avec son Créateur. Un seul peuple gouverné par le Roi des Rois, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même. Ce qui veut dire que pour Dieu, dans le plan initial de Dieu, il n'y a pas certaines catégories d'êtres humains qui seraient supérieurs aux autres. Dans la perspective biblique, tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Tous sont créés égaux. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur langue, tous les êtres humains ont la même valeur. Ça, c'est le point de départ. Dans le plan de Dieu, l'humanité constituée d'un seul peuple, créée à l'image de Dieu et pour sa gloire. Ça, c'est ce que Dieu souhaitait au commencement. Mais voilà, on sait que dès le chapitre 3 de la Genèse, les choses tournent mal. Et l'être humain décide de faire la révolution. Il se rebelle contre le roi des rois. Il se dit, bon, être l'image de Dieu, ah, c'est bien, ça va, c'est quand même pas mal, mais moi je veux être comme Dieu. Je veux être mon propre roi. Je veux fixer mes propres lois. Je veux décider par moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la suite de l'histoire nous montre que les conséquences du péché sont désastreuses. Les conséquences de cette rébellion, de cette désobéissance de l'être humain sont désastreuses. Le travail devient pénible, la vie de couple se complique, les maladies, la mort font leur entrée dans le monde, les relations humaines sont marquées par la jalousie, par les tromperies, par les meurtres, par la vengeance, pensée dès le chapitre 4 avec Cain et Abel. Et cette unique humanité créée à l'image de Dieu et pour sa gloire en vient à se diviser. Et ça, on trouve un peu plus loin dans la Genèse, où on apprend comment l'humanité va être divisée en différentes langues, différents peuples, différentes nations. Et c'est le chapitre 11 de la Genèse qui nous parle de cela. On y apprend que cette division, c'est la conséquence d'un projet assez fou qu'avait l'humanité à cette époque. Le texte nous dit, vous connaissez ce récit de la tour de Babel, hein, que les humains de l'époque s'étaient tous unis autour d'un projet grandiose. Et ils se disent, Genèse 11, verset 4, « Bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet sera dans les cieux, littéralement c'est dont la tête sera dans les cieux, et ainsi nous nous ferons un nom, nous nous ferons une renommée, nous deviendrons célèbres. » Alors on pourrait se dire que c'est un beau projet, quand même, hein, toute l'humanité qui s'unit autour d'un projet commun, une même ambition. Si vous connaissez l'histoire, Dieu n'est pas du même avis. Pourquoi ? Pourquoi trouve-t-il que ce projet n'est pas un bon projet, mais plutôt un projet fou et dangereux ? Parce que ce projet, c'est la manifestation du rejet de Dieu. L'humanité ne s'unit pas pour rendre gloire à Dieu, ce qui était son rôle, ce qui est notre appel, ce pourquoi Dieu nous a créés, pour rendre gloire à son nom, mais pour se rendre gloire à son propre nom, pour se faire un nom à soi en tant qu'humain, pour prendre la place de Dieu. Le texte dit que l'humanité veut se construire une tour pour se faire un nom, une renommée, se glorifier elle-même. Et pire, elle veut construire une tour qui va avoir son sommet dans les cieux. Et vous savez, dans la Bible, les cieux, c'est le domaine de Dieu. C'est une manière de désigner le domaine de Dieu. Autrement dit, l'humanité veut se faire comme un escalier pour monter au ciel et peut-être prendre le pouvoir, qui sait, sur le domaine de Dieu. En tout cas, c'est son projet fou. Le récit de la tour de Babel nous raconte cette union de l'humanité dans sa rébellion contre Dieu. Et c'est toute l'humanité unie pour dire « Nous sommes notre propre roi, nous sommes nous-mêmes Dieu. À nous la gloire, à nous l'honneur. » Mais Dieu ne laisse pas l'humanité s'illusionner. Vous connaissez la suite de l'histoire, il va punir son orgueil en embrouillant le langage de ceux qui construisent de telle sorte qu'ils ne se comprennent plus tellement les uns les autres et qu'ils abandonnent leur projet fou, et qu'à partir de ce temps-là, ils se dispersent sur toute la terre, se divisent en différentes nations, clans, peuples. Ainsi, vous voyez, la Bible présente clairement la division de l'humanité en différentes langues, en différentes nations, en différents peuples, comme étant une conséquence du péché. C'est à cause de notre orgueil, de notre prétention à vivre sans Dieu, de notre désir de recevoir la gloire qui revient à Dieu. C'est à cause de notre péché que Dieu a divisé l'humanité en nations. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous en ce 14 juillet ? Je dirais deux choses. Premièrement, il faut se rappeler que l'existence de notre nation, comme de toute nation, ne fait pas partie de la volonté première, initiale de Dieu. Au commencement, Dieu n'a pas créé la France. La naissance de notre nation, comme toutes les nations, est lié quelque part au péché de l'humanité. Et ça, ça nous invite à une certaine humilité. Quand parfois on pourrait vanter la grandeur de sa nation, de façon paradoxale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet ? On fête une révolution. Hein ? C'est assez paradoxal. Vous savez, à Madagascar, la fête nationale, c'est le 26 juin. C'était il n'y a pas très longtemps. Daphine et les enfants ont été là-bas à ce moment-là. Et pour... à Madagascar, c'est une fête bien plus importante, je pense, encore que quoi, bien plus qu'en France, c'est fêté. Il y a des célébrations qui durent pendant des semaines. Il y a des drapeaux partout de Madagascar. C'est une vraie fête, une grosse fête. Et vous savez ce qui célèbre le 26 juin, le peuple malgache ? Le retour à l'indépendance du pays, qui a eu lieu le 26 juin 1960. Parce qu'avant cette date, Madagascar était soumise à une autre nation, pas un voisin du coin, hein, une nation située à plus de 10 000 km de chez eux, une nation coloniale qui a décidé un beau jour, voilà, maintenant Madagascar, c'est chez nous. Vous nous appartenez. Vous savez quelle est cette nation ? C'est la France. C'est la nôtre. Eh oui, eux, quand ils célèbrent leur fête nationale, ils célèbrent leur libération de la France. Ce qui nous rappelle, hein, quelque part, une certaine humilité. Que oui, notre nation, mais comme toutes les nations, hein, est contaminée par le péché. Tout ce que fait notre nation n'est pas beau et excellent, je pense qu'on est d'accord. Et ça nous invite à une certaine humilité, peut-être à la repentance, à prier aussi pour notre nation en ce 14 juillet pour que le Seigneur lui fasse grâce, qu'il se révèle à elle. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Deuxièmement, un autre côté, le récit de la tour de Babel rappelle que Dieu est aussi à l'origine de cette diversité de langues et de nations. Car oui, les nations n'étaient pas dans son plan initial, mais c'est quand même lui qui a décidé d'embrouiller tout le monde. Hein ? Pourquoi il a fait cela ? Alors d'une part, c'est parce que c'est une forme de jugement pour, face à l'orgueil de l'être humain, mais aussi une limite que Dieu a voulu donner au péché. Il l'a fait pour limiter, pour empêcher l'être humain de s'enfoncer encore plus dans son orgueil, dans sa prétention à vouloir gouverner le monde sans lui. Et donc, ça nous montre que l'existence des nations, des peuples et des langues n'est pas quelque chose qui échapperait à la souveraineté de Dieu. Au contraire, c'est quelque chose que lui-même a permis, fait arriver dans sa souveraineté pour, dans ce monde qui est atteint par le péché, mettre aussi une limite au mal. Donc il y a aussi des choses bonnes dans les peuples, les nations, les langues. Une forme de la grâce de Dieu. Il faut parler de grâce commune. Et je crois qu'en France, on peut aussi célébrer les bonnes choses que Dieu a fait et nous donne pour notre nation. Vous savez, la France, c'est le pays le plus visité du monde. On vient du monde entier pour admirer les paysages, les monuments grandioses, les jolis villages. En Alsace, il y en a pas mal, hein. Les créations artistiques. On admire aussi l'art de vivre à la française, qui est réputé partout dans le monde, la gastronomie française. Au-delà de cet aspect un peu touristique, notre nation a aussi des choses bonnes et belles. On est quand même dans un pays, quand vous avez vécu dans un des pays les plus pauvres du monde, à Madagascar, on est quand même béni d'une certaine manière en France. La grande pauvreté est très faible en France par rapport à d'autres pays. On est un pays où tout le monde a accès à une éducation de qualité, où on a un système de santé. Nous, notre famille, on en a bien profité parce qu'on a bien réalisé cela. On a un système de santé en France qui est exceptionnel par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport... Alors, on se plaint souvent, hein, mais allez voyager un peu, vous verrez que c'est pas forcément meilleur ailleurs. On est privilégié. On a des belles choses quand même dans notre pays. Et puis on vit dans un pays où on peut librement nous réunir. On est là tous ensemble, on n'a pas eu peur de la police qui nous contrôlait ou qui... On ne se dit pas, on vient à l'église, on va se retrouver en prison. Non, on est libre, on peut se réunir, on peut louer Dieu ensemble. On est autorisé même à témoigner de Jésus-Christ dans la rue, dans l'espace public. Ça fait partie de notre liberté qu'on a ici dans ce pays. Et beaucoup de chrétiens à travers le monde n'ont pas cette liberté. Ce sont des grâces. Alors en tant que Français, on est les champions de la critique, on est champions pour se plaindre. Hein. Je crois que ça, on est d'accord. Hein. Mais est-ce qu'on est capable de voir aussi les belles et bonnes choses qu'il y a aussi dans notre nation, que parfois le monde entier nous envie ? Alors pas pour se vanter, hein, pas pour faire le fier, vous voyez comme on est beau et bon, mais parce que nous croyons en tant que chrétiens que toutes les bonnes choses et les belles choses que nous, dont nous pouvons profiter, ce sont des grâces, des cadeaux que Dieu nous fait, que Dieu offre à notre nation. Et on n'a rien fait pour les mériter. Moi, j'ai rien fait. Je suis juste né dans une famille française, en France. En ce 14 juillet, on célèbre la nation. Je pense qu'en tant que chrétien, une bonne attitude serait de célébrer notre Seigneur pour les belles choses, les bonnes choses, les grâces dont nous bénéficions en tant que Français. Alors, peut-être qu'on peut prendre le temps de lister toutes les bonnes et belles choses, pas seulement ce qui va mal pour une fois, et rendre grâce à Dieu pour cela aussi. Voilà quelques pistes de réflexion. Donc on a vu, premièrement, comment Dieu a créé les choses, ensuite ce que le péché est venu bouleverser avec l'apparition des nations. Mais ça ne s'arrête pas là. Le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Le plan de Dieu pour les nations continue. Et si vous lisez la suite du récit de la Genèse, après Genèse 11, vous avez Genèse 12. Ce n'est pas une grande révélation, hein. Et vous avez une autre histoire qui va commencer. Une autre histoire d'ailleurs qui va se prolonger tout au long du reste de la Bible. Et cette histoire, c'est l'histoire du plan du salut que Dieu va mettre en place progressivement dans l'Ancien Testament, puis avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et au Genèse 12, on découvre que parmi toutes les nations, parmi tous les humains qui sont sur la terre à l'époque, le Seigneur va prendre un homme et une femme, Abraham et Sarah, qui vont être à l'origine d'un peuple. Un peuple que Dieu va choisir. Une nation qu'il va appeler une nation sainte, mise à part pour Dieu. Et si vous lisez le début de Genèse 12, au verset 2 et 3, Dieu appelle Abraham, il dit « Viens et va, quitte ton pays. » Et il lui fait cette promesse au verset 2 et 3. Il dit « Je ferai de toi, un grand peuple. » Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre, tous les clans, toutes les nations de la terre seront béni. Vous voyez, en Genèse 11, l'humanité voulait monter au ciel et se construire une tour pour se faire un nom, pour se rendre célèbre par soi-même. En Genèse 12, c'est Dieu qui va choisir lui-même un simple être humain et décider de rendre son nom célèbre, d'en faire un grand peuple, par grâce, par choix. Et ce n'est pas seulement Abraham et sa descendance qui vont être bénis à travers le choix que Dieu fait, nous dit le texte. Pas seulement la nation qui va naître d'Abraham et Sarah, mais toutes les nations de la terre à travers eux. Notre Seigneur a un plan de bénédiction pour toutes les nations. Mais celui-ci va passer par un peuple particulier, par une descendance spécifique qui est celle d'Abraham et de Sarah. La suite de l'Ancien Testament, alors on ne va pas lire tout l'Ancien Testament, mais nous montre comment Dieu réalise ce plan. La famille d'Abraham va devenir un clan, puis un peuple, puis une nation à partir du récit de l'Exode, au mont Sinaï, lorsque Dieu va libérer l'Égypte, le peuple hébreu, il va l'amener au mont Sinaï, là il va se révéler à lui, il va faire alliance avec cette nation, avec Israël, il va lui révéler sa constitution, ses lois, ses règles, et il va faire de ce peuple, comme dit Exode 19, une nation sainte, un royaume de prêtres mis à part pour Dieu. En tout cas, c'est son intention, c'est ça qu'il souhaite faire avec ce peuple-là. On sait aussi, malheureusement, que la suite de l'Ancien Testament nous montre que Israël n'est pas plus capable que les autres nations de répondre à cet appel divin. Cette nation sainte ne cesse de désobéir aux règles qui régissent l'Alliance. Et quand vous lisez les prophètes de l'Ancien Testament, ils dénoncent cette idolâtrie qui est en Israël même, l'immoralité, les injustices. Si vous rappelez ensuite, il va y avoir des rois, il va y avoir David, Salomon. Mais après la mort de Salomon, la nation va se diviser en deux nations, en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Et puis par la suite, les Israélites vont être envoyés en exil par les Assyriens, puis les Judéens, par les Babyloniens, et puis d'autres vont aller en Égypte, et puis les Juifs vont être un peu partout sur la terre au final. Comment cette descendance d'Abraham pourrait-elle donc être cette nation sainte en bénédiction pour toutes les nations ? Eh bien, la réponse nous est donnée par le Nouveau Testament. Ça, c'est le quatrième étape, c'est que la réponse, c'est Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour les nations se réalise en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le vrai Israélite qui vient accomplir la loi que Dieu a donnée à son peuple, nous dit le texte. Il est ce roi qui a reçu l'onction, le Messie, par qui Dieu vient bénir toutes les nations. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme, cette descendance ultime d'Abraham, qui vient aussi accomplir le plan de Dieu, cette bénédiction pour les nations. Le Fils de Dieu vient régler le problème du péché en subissant à notre place le châtiment qui nous était réservé. Et donc le Nouveau Testament nous montre que le plan de Dieu se réalise pleinement en Jésus-Christ, le plan de Dieu pour les nations. Et c'est qu'en Jésus-Christ que c'est possible. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Bonne nouvelle de l'Évangile qui doit être proclamée parmi toutes les nations, qu'on soit juif, qu'on soit non-juif, qu'on soit grec, romain, égyptien, syrien, turc, chinois, indien, russe, ukrainien, arménien, congolais, béninois, malgache, français ou même alsacien. Si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes rétablis dans notre identité d'être humain créé à l'image de Dieu. C'est ce que Paul dit par exemple en Colossiens chapitre 3, ce verset qui dit « Vous avez revêtu, vous qui êtes en Jésus-Christ, vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. » On a revêtu cette image de Dieu à nouveau en Jésus-Christ, pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif, circoncis, incirconcis, non civilisé, primitif, esclave ou libre. Ce qui compte, c'est le Christ, qui est tout, est en tous. Il y a 6 ans, notre famille est partie vivre à Madagascar. Et quand vous partez vivre dans un pays aussi, surtout un pays comme Madagascar, qui est quand même très différent du nôtre, vous découvrez ce que ça signifie être un étranger. Parce que quand vous vivez à l'étranger, vous réalisez, et nous avons réalisé aussi ce que signifie un peu plus aussi être français. C'est paradoxal. C'est quand vous allez à l'étranger que vous comprenez mieux aussi votre identité en tant que français. Et donc, on a vécu dans ce pays en étranger, mais malgré tout, on a vécu là-bas quand même un certain nombre d'années, on a développé des relations, on a pris nos repères, et ce pays est devenu aussi, quelque part, un petit peu notre pays, une partie de notre identité en tout cas. Et maintenant, on revient en France, Et assez bizarrement, c'est quelque chose que je sais que beaucoup expérimentent, c'est quand on revient comme ça après des années à l'étranger, on se sent un petit peu étranger dans son propre pays. Non pas parce que la France aurait complètement changé en 6 ans, hein, mais parce que notre vécu à l'étranger nous fait voir différemment notre propre pays. Et je crois que cette expérience, c'est celle que beaucoup de nos contemporains expérimentent aussi, parce qu'on est dans un monde actuellement qui est un monde en mouvement, un monde où il y a beaucoup de, et on en est témoin je crois ici, en tant qu'assemblée, beaucoup de mouvements hein, entre les nations, entre les pays. Alors il y en a qui doivent quitter leur pays pour fuir la guerre, pour des détresses terribles. D'autres le font par choix, pour des raisons professionnelles, pour des raisons économiques, ou par simple goût du voyage pour certains. Hein. Il y en a qui partent aussi dans une perspective plus missionnaire parfois, ou parfois les deux ensemble, hein, ça peut y avoir plusieurs raisons. Mais quand on passe d'un pays à un autre, on vit dans différents pays, c'est fréquent de plus trop savoir bah, quelle est vraiment notre identité nationale. On se sent un peu étranger partout où on va, même dans son propre pays d'origine. Et je sais que certains qui ont grandi à l'étranger, ont vécu et vivent en France maintenant, expérimentent la même chose quand ils rentrent dans leur pays d'origine. Et inversement, pour ceux qui ont toujours vécu dans le même pays, celui de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, c'est pas toujours facile de voir tous ces mouvements de population. Les nouveaux arrivants apportent forcément avec eux une partie de leur culture, des habitudes qui ne sont pas forcément celles de ceux qui sont déjà sur place. Et on a un peu de mal parfois à accepter que, bah, à travers tous ces mouvements, l'identité de notre nation se modifie un petit peu. Et c'est normal, on ne peut pas faire autrement et c'est comme ça partout dans le monde. Mais ce n'est pas toujours facile à accepter. On semble un peu perturbé. Et je crois que ça explique aussi en partie la montée des nationalismes qu'on voit un peu partout dans le monde. On est dans une société mondialisée qui est globalisée. L'être humain, quelque part, fait un peu sa crise d'identité. C'est plus trop crise d'identité nationale, on pourrait dire. On se cherche une identité nationale. Et je crois que beaucoup expérimentent cette chose-là. Et je crois que, au fond, cette crise d'identité nationale reflète quelque chose de plus profond. Une crise d'identité qui est plus profonde dans notre monde. Parce qu'on l'a vu, Dieu ne nous a pas créés français, malgaches, congolais, arméniens ou alsaciens, hein, mais il nous a créés à son image. Et notre identité profonde d'être humain est liée à notre relation à Dieu. C'est là le cœur de notre identité. Et si nous nous sentons étrangers, immigrés ou pas vraiment chez soi, c'est peut-être parce que notre péché, ça nous montre, nous a éloignés de la maison de Dieu et nous révèle cet désir quelque part de retrouver notre véritable nation qui est celle de la maison de Dieu. Et pour tous ceux qui expérimentent cela, et je crois que beaucoup dans notre société peuvent l'expérimenter, l'évangile est une bonne nouvelle. J'aimerais vous lire un passage un peu plus long qui se trouve assez extraordinaire sur ce point-là, c'est dans Éphésiens, toujours l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Il dit « Rappelez-vous donc de ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juif de naissance. » Peut-être qu'à moins que certains le soient ici, mais en tout cas pas moi. « Les juifs vous traitent d'incirconcis, alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, vous étiez à ce moment-là sans Christ. » Vous étiez étranger. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclu des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des ennemis. Il a annulé la loi avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et avec les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs, ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, plus des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. Amen. Quelle belle, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Amen. Je trouve ce texte extraordinaire. En Jésus-Christ, non seulement nous avons une nouvelle identité, mais une nouvelle, on pourrait dire, carte d'identité, une nouvelle nationalité. Nous ne sommes plus des étrangers en exil sur cette terre, mais des citoyens du peuple de Dieu, des membres de la famille même de Dieu. Est-ce qu'on réalise cela ? Jésus-Christ a payé de sa vie le billet qui nous ramène à la maison du Père, notre Père céleste. Le Fils de Dieu a tout accompli pour nous permettre de retrouver cette véritable identité nationale. Et si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous déclare ce beau verset, « Vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des immigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, à sa maison. » Amen. Alléluia. Amen. Alors cette famille de Dieu, cette maison de Dieu, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas juste une utopie ou une belle idée, hein. Et ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va expérimenter dans sa totalité, dans la nouvelle création. Ça fait partie, vous savez, dans la nouvelle création, il y a toutes les nations qui apportent la gloire à Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Il y a une union qui est rétablie, une paix qui est là. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que cette maison de Dieu, ce peuple de Dieu, ça commence déjà maintenant. Et ça, c'est l'Église. L'Église universelle, le corps du Christ. L'Église, c'est un seul peuple composé d'hommes et de femmes de diverses langues, tribus et nations. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Saint-Esprit vient donner naissance à l'Église. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Qu'est-ce qu'ils font les disciples ? Ils se mettent à parler dans les langues de plein de nations différentes, des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit montre ? À son Église qu'il est en train de façonner à ce moment-là, laquelle va être un peuple composé de croyants de toutes langues, tribus, nations. Et ça, être une Église, vous savez, pentecôtiste, hein, qui est habitée par le Saint-Esprit, c'est aussi être cela. Une Église au-delà des frontières, au-delà des langues, au-delà des nationalités. Je crois que vous en êtes un bon exemple. Au chapitre 7 de l'Apocalypse, on a aussi cette belle image de l'Église céleste qui est décrite, on va lire ces versets au verset 9 et 10, Apocalypse 7, qui dit « Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de vêtements blancs avec des branches de palmier à la main. Ils criaient d'une voix forte « Le salut vient de notre Dieu qui siège sur le trône et de l'agneau. » Nous sommes en tant qu'Église, Église locale, réunie dans un lieu, dans un endroit, en cet instant. Mais nous sommes ici assemblés, une belle manifestation, je crois, concrète de ce peuple, de toutes les nations. Alors, on n'a pas toutes les nations parmi nous, mais on en a quand même un certain nombre, je pense, représentés, parce qu'on vient de différents horizons. On est originaire de différents pays, Et pourtant, ce matin, tout à l'heure, on a tous uni nos voix, on a tous chanté ensemble, loué Dieu ensemble, célébré celui qui nous a sauvés. Celui par qui nous formons un seul peuple, une nation sainte, un royaume de prêtres. Et dans un monde désuni, où les nations sont tentées par la guerre est présente, pas très loin de nous, je crois que, en tant qu'Église, nous sommes appelés à être ce témoignage vivant de cette bonne nouvelle de paix, comme dit le texte d'Éphésiens. Et du fait de notre péché, nous étions tous des étrangers dans la maison de Dieu. Et par sa mort à la croix, Jésus-Christ a détruit le mur de séparation, dit le texte, ce mur de frontière, comme parfois on en a dans certains pays aujourd'hui, des grands murs entre les frontières. Mais à la croix, Jésus-Christ détruit cette frontière qui nous sépare du peuple de Dieu, de notre nation céleste. Et en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés ensemble avec Dieu pour former un seul peuple. Un seul peuple de toutes les nations à la gloire du roi des rois. Amen. Alors on arrive au bout de ce parcours un peu ensemble. Citer la Genèse et l'Apocalypse. Hein. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à notre question ? La question de départ, hein, c'était est-ce que c'est bien de fêter notre nation le 14 juillet ? Est-ce qu'on peut être fier de son pays ? Alors je crois qu'on a vu d'un côté qu'en tant que chrétien, on doit être réaliste. Hein. Notre nation, comme toutes les nations, est atteinte par le péché. On doit prier pour elle, on doit témoigner, faire changer les choses aussi par notre personne, notre attitude. Et on ne peut pas faire toujours le fier hein, en étant français, parce que tout n'est pas beau. Mais en même temps, dans sa grâce, Dieu accorde à chaque nation de belles choses, de bonnes choses, dans sa culture, dans sa langue, dans sa façon de vivre. Et il faut savoir repérer ces bonnes choses qui sont des belles choses selon la volonté de Dieu, dans notre histoire, dans notre caractère commun. Et ces choses-là sont des manifestations de la grâce commune de Dieu, et on peut les célébrer. Mais célébrer Dieu pour ses grâces. Pas nous célébrer nous-mêmes. Hein. Célébrer Dieu pour ses grâces qu'il accorde à notre nation. Mais en faisant cela, et c'était un peu le cœur de cette deuxième partie de ce message, il faut se rappeler que pour nous qui sommes en Christ, notre nationalité terrestre a son importance parce qu'on est toujours sur cette terre, hein. On est toujours dans ce monde, on attend, on soupire après le retour de notre Seigneur, mais cette réalité fait qu'il y a encore ces nations qui sont là. Mais malgré son importance, ça passe au second plan, en arrière-plan, par rapport à une autre nationalité. Au fait que nous sommes avant tout des concitoyens d'une nation sainte, des sujets du royaume de Dieu. Des compatriotes de la patrie de Dieu. Des membres de la famille de Dieu. Et notre identité est d'abord en Christ. C'est ça le fondement pour nous qui sommes à Jésus-Christ. Et c'est de cette nationalité-là qui est la plus importante. Pourquoi c'est la plus importante ? Parce que quelles que soient les évolutions politiques, quelles que soient les guerres, les mutations, cette nationalité-là, on l'a acquise définitivement par le sang de Jésus-Christ. Et celle-là, c'est la seule qui durera pour l'éternité. C'est là notre glorieuse nation pour l'éternité. Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps peut-être pour se mettre devant Dieu maintenant. Et peut-être prier aussi pour notre nation, mais aussi peut-être plus spécifiquement, j'avais à cœur ce matin, pour celles et ceux qui, comme on l'a expérimenté, peut-être que moi-même j'expérimente un petit peu en revenant en France, se sentent pas, vraiment chez eux ou ne savent plus trop quelle est leur identité nationale et sentent au fond d'eux quelque part quelque chose comme une blessure. Et ce n'est pas facile toujours à vivre de plus savoir vraiment d'où on est, où on va, qui on est. Et je crois que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ce matin pour nous, c'est de nous rappeler qu'en Jésus-Christ, nous avons une nationalité, une identité encore bien plus extraordinaire que celle de notre nation, quelle qu'elle soit. Je crois que le Seigneur veut aussi peut-être guérir les cœurs, nous faire réaliser par son Saint-Esprit ce que ça représente pour nous aujourd'hui, en cet instant. J'aimerais prier pour vous si vous le voulez. Et peut-être que si certains ont vraiment besoin de recevoir une consolation ou une guérison du Seigneur dans ce domaine-là, peut-être simplement on peut se lever à sa place, puis on va prier ensemble. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais notre vécu, tu sais tout de nous, Seigneur, parce que tu es notre Créateur. Tu nous connais dès le ventre de notre mère, tu sais tout ce que nous avons vécu chaque instant de nos vies. Et Seigneur, tu connais aussi les blessures qui peuvent être là. Tu sais aussi les déracinements qui ne sont pas faciles pour ceux qui ont parfois été déracinés de leur culture, de leur pays, qui se sentent parfois pas toujours bien accueillis ailleurs. Seigneur, j'aimerais que tu nous rappelles à tous ce matin, que tu nous fasses réaliser par ton Saint-Esprit la grandeur de ton plan, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui non seulement concerne notre personne dans notre identité en tant qu'être humain, mais même notre identité nationale. Oui, Seigneur, en toi, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des incirconcis. Nous ne sommes plus des immigrés. Nous ne sommes plus des hôtes de passage sur cette terre ou des personnes errantes sur cette terre. Mais nous avons trouvé en Jésus-Christ la maison du Père, la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints, concitoyens du royaume de Dieu. Et Seigneur, j'aimerais que tu nous aides à réaliser ce que cela représente. Viens guérir maintenant aussi, par ton esprit, là où il y a besoin de guérison. Viens restaurer là où il y a besoin de restauration. Et peut-être qu'on peut tous se lever maintenant en tant qu'Église et j'aimerais qu'on prie aussi qu'en tant qu'Église, nous soyons, nous, ce peuple de toutes les nations. Ce peuple de toutes les nations qui est un témoin pour ce monde où les nations sont en conflit. Ce monde où la haine règne parfois. Notre bonne nouvelle est une bonne nouvelle de paix. Bonne nouvelle d'amour, de réconciliation, de murs qui tombent. Amen. Alors Seigneur, nous sommes là devant toi et nous te demandons, fais de nous ce peuple témoin de cette nation sainte, Seigneur, que tu veux faire avec nous. Seigneur, c'est une grâce de faire partie de ton peuple, d'être de toutes les nations réunies là, réconciliées par toi, Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire par nos propres forces. C'est simplement parce qu'on l'a reçu de toi. Et je te prie que par ton Saint-Esprit, tu fasses de nous en tant qu'Église, tu fasses de l'Épi qui est à Strasbourg, dans cet lieu, dans cette localité, un témoin, Seigneur, de ce bonne nouvelle de la paix qui est en Jésus-Christ, une paix pour les nations. réconciliation, un témoignage de murs qui sont, de séparation qui sont tombés, ébranlés. Viens restaurer, Seigneur, et fais de nous cette Église témoin pour les nations. Alléluia. Amen. Peut-être chanter ensemble ce chant.
On va chanter en priant pour nos nations, demander que l'évangile de Jésus-Christ pénètre ville et village, quartier et résidence. On va le chanter ensemble. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies, tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus,
tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous.
Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Hey. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, mènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur,
en train de réfléchir quand Timothée prêchait, je me suis dit punaise, il faut que je fasse quelque chose, je crois que je vais aller demander de changer ma carte d'identité. Amen. Et j'ai envie de dire, vive le royaume de Dieu. Amen. Je suis tellement fière de faire partie du royaume de Dieu parce que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a établis ici. Et même si on dit qu'on se sent étranger des fois dans notre propre pays, parfois en changeant de région, je ne comprenais pas l'alsacien. C'était compliqué. Mais là, je me dis, punaise, Seigneur, c'est vrai, je fais partie de ton royaume. Nous faisons partie de son royaume. C'est lui qui nous a choisis. Et c'est tellement bon parce que ben, on ne se sent pas étranger, on se sent accueilli, on se sent choisi, on se sent aimé. Et on est tous frères et sœurs. Et ça, c'est tellement beau, cette diversité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur ? Moi, j'ai envie de me reconvertir tout le temps là, et de dire, Seigneur, c'est bon, je m'engage encore. Ouais, je veux y aller pour ton royaume. On a une mission à ne pas oublier. Vous savez, il y a des traditions dans certaines régions, dans certains pays. On communique, c'est comme ça dans les familles. On fait comme ça. Et on a une tradition en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apporter cette bonne nouvelle. On doit communiquer cette bonne nouvelle, la nouvelle que Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nos péchés et pour que nous fassions partie de son royaume, son peuple à lui. Amen. Si vraiment ce message vous a touché, vous a interpellé, ou si vous avez besoin de prière parce que vous avez passé quelque chose de difficile cette semaine ou quoi, ben vous aurez une équipe là sur votre droite qui va se tenir pour prier avec vous, pour vous accompagner. En tout cas, encore merci. Timothée, merci. Et si vous le voulez bien, je vais lui demander de venir avec sa famille, avec ses enfants et sa femme. Et je vais demander à Michel de prier pour eux, pour les accompagner dans cette nouvelle étape de vie, au retour du pays de France. Vous pouvez monter là. Et l'église, on les accompagne. On accompagne Michel dans cette prière.
Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour Timothée, pour Ethan, pour Ève, pour Delphine. Heureux d'avoir pu les accompagner jusque-là. Pour ces 6 années passées à Madagascar, nous prions pour leur retour ici, prions pour leur adaptation, prions, Seigneur, de les consoler aussi. Tu vois les pertes, tu connais les amis, les relations qu'ils laissent derrière eux. Nous savons que c'est un moment difficile. Émotionnellement, nous prions pour que tu les accompagnes. Tu sois avec eux dans cette nouvelle installation, là où ils seront, dans le pastorat, dans les nouvelles relations. Merci de venir faciliter les relations. Nous les bénissons en ton nom. Nous les remercions d'avoir été jusque-là en mission. Un bout de nous-mêmes, un bout de l'épi qui était là-bas, Madagascar. Et nous continuons à prier pour Madagascar comme nous continuons à prier pour eux, pour la mission. Merci de les accompagner, de les bénir, de les encourager, de les fortifier. On prie pour cette nouvelle rentrée au mois de septembre aussi. Merci pour ta fidélité à leur égard. Amen. Amen.
On vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.